RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Gilbert Bribois.
L'intégral foot est là jusqu'à 18h toute la semaine. Ensuite, l'athlétisme jusqu'à 23h. Grande soirée athlée encore à Londres ce soir avec toutes les finales, toutes les médailles, bien sûr, à vivre avec notre équipe sur place. Et puis l'after sera là de 23h à minuit. Vous avez le programme complet. On va donc maintenant pouvoir se concentrer sur le cas stéphanois, Roland, avec Dominique Rocheteau, le directeur sportif des Verts, qui est dans l'intégral foot. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Salut directeur.
Bonjour. Salut Roland.
Mais je viens d'apprendre que tu avais changé de fonction. Moi, je pensais que tu étais déjà directeur sportif. Donc, on joue sur les mots, là, ou quoi?
À 62 ans, est-ce qu'on peut changer de fonction? Non, parce que ça fait 7 ans que je suis au club. Mais disons que c'est le fonctionnement qui est un peu différent, dans la mesure où moi, j'avais un fonctionnement avec Christophe.
Hein. Christophe Galtier, excusez-moi,
qui est quand même resté 8 ans au club.
Mais oui.
Donc on avait au fur et à mesure un fonctionnement, voilà, et c'était moi, j'étais aux côtés de Christophe, dans l'accompagnement et dans le conseil, et voilà, c'était un fonctionnement qu'on avait ensemble, avec une grande confiance qui s'est instaurée au fur et à mesure, et maintenant, bon, c'est vrai que j'ai un nouveau rôle, dans la mesure où j'ai plus de... C'est vrai que j'ai, avec le changement, bien sûr, avec le départ de Christophe, au passage, qui nous a apporté beaucoup et qui a fait beaucoup pour le club, et avec le nouveau coach qui est arrivé. Donc voilà, on a discuté avec les présidents, avec Roland, avec Bernard, et disons que j'ai un poste avec plus de responsabilité, plus de prise de décision.
Voilà, mais disons que ça joue.
Bon, l'expérience, je l'ai acquis au fur et à mesure des années.
Sans jouer avec les mots, bon, directeur sportif, c'est toujours un titre, mais avec de différentes fonctions, et notamment celle de pouvoir décider de certaines choses. Donc là,
oui,
tu as un pouvoir de décision qui a augmenté.
Oui, voilà. En gros, c'est ça.
D'accord.
Sur tous les plans, quoi, sauf que plan du secteur professionnel, plan de la formation aussi, parce que nous, la formation, c'est important, c'est voilà, avec un nouveau projet, puisqu'on a un nouveau directeur du centre de formation que vous connaissez, c'est Julien Sablé, qui est passé directeur du centre de formation, et donc voilà, donc c'est un nouveau cycle, en fait, qui redémarre, avec un gros chantier, quand même, à l'intersaison, quand Christophe est parti, c'était un gros chantier, parce que on savait qu'il y aurait beaucoup de changements à tous les niveaux. Alors, nouvel entraîneur, bien sûr.
Ben justement, le changement. Excuse-moi de te couper.
On va parler de la saison des Verts et des changements, mais vous-même, Dominique, vous avez, mine de rien, vous avez à peu près tout fait dans le foot, hein, sauf entraîneur. Vous avez été joueur, vous avez été agent.
Non, pas entraîneur.
Vous avez été conseiller, vous avez quasiment occupé tous les postes possibles dans la palette d'un...
Ouais, mais t'inquiète, il est pas fou. Le poste du dingo, c'est-à-dire le poste d'entraîneur, il n'a jamais fait.
Voilà, hein. voilà. Exact, t'as raison. Mais bon, ça,
mais vous avez encore la passion, là, parce que vous... Enfin, je sais pas, ou à un moment, peut-être
la
que...
Passion.
Ouais, ou...
La passion. La passion, oui, bah oui, si, bah oui, il y a les tours là. Il y a la passion, et puis il y a le club aussi, quand même. Parce que bon, voilà, c'est pas pour dire, je vais pas dire que c'est mon club de cœur, mais c'est mon club, quoi. Il y a surtout ça. Maintenant, j'ai un certain âge, donc je me vois pas aller dans un autre club. Mais voilà, s'il y avait vraiment un club dans lequel je voulais m'investir, c'était celui-ci, bien sûr.
Alors, j'ai pas pour habitude de passer la pommade, donc tu sais très bien que je parle clair et net.
Sur le terrain, quand tu me marquais, tu me passais pas de la pommade.
ouais, mais moi, je pouvais pas faire autrement avec tes dribbles, là, putain. C'était emmerdant de t'arrêter aussi. Hein.
Ouais.
Donc, pour en revenir à ce poste de dingo, qui est le poste d'entraîneur, il y a des fois des premières impressions, tu sais, des premières impressions, je dis pas que ce sont toujours les bonnes, mais souvent les bonnes. Et... Mmh. Et ce gars-là, je ne le
Oscar
connaissais
Garcia.
Pas du tout avant. Mmh. Je l'ai vu dans une interview avant le match, après le match. Et ben, c'est même pas qu'il me fait bonne impression, il me fait très très bonne impression dans sa façon de s'exprimer. Déjà dans le fait de parler le français. Comme parfois beaucoup de Français n'y arrivent pas.
Ah ben nous c'était primordial, hein. Dans le choix c'était primordial dans le choix, c'est sûr.
Et
un train d'étranger, il fallait qu'il parle français.
Et disons que je serais vraiment pas étonné, parce que passer derrière Galtier c'est pas évident.
Ouais.
Mais je serais pas étonné qu'il arrive à relever et à réussir ce challenge. Donc je vais suivre ça, évidemment, comme un passionné que je suis, avec beaucoup d'attention, mais je serais pas étonné qu'il réussisse.
Écoute, dans le football, on n'est jamais sûr, hein. Mais bon, moi, je pense qu'on a fait le bon choix. On a tardé un petit peu, c'est vrai. Tous les supporters attendaient. C'est comme ça. Il y a toujours de l'attente. Et je pense que, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup d'entraîneurs, mais je pense qu'on a fait le bon choix. Enfin, moi, personnellement, j'avais rencontré à Paris, et sincèrement, je suis tombé vraiment sous le charme rapidement, quoi. Au niveau du professionnalisme, de sa conception du football, de l'homme aussi. Parce que beaucoup d'humilité, de sa carrière aussi quand même, hein, carrière joueur, carrière, puis maintenant carrière entraîneur, puisqu'il est passé dans des clubs importants. Donc voilà, et puis un gros travailleur, enfin bon, beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité, on est vraiment content qu'il soit là.
Alors, vous avez présenté aujourd'hui les nouvelles recrues. Là, ça bouge pas mal, hein. Alors, il y a quand même une petite anecdote assez sympa, puisqu'il y avait des supporters qui étaient présents sur place là cet après-midi et qui voyaient les nouveaux joueurs. Et puis, il y en a un qui dit « Mais c'est qui, lui ?» Il dit « Ah bah, je sais pas. Ah bah, prends une photo, c'est pas grave, on regardera sur Internet. » Donc, c'est vrai que vous recrutez...
On n'a pas forcément pris des joueurs connus. Quand même.
Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas pris des stars.
On n'a pas les moyens, d'une part. On n'a pas les moyens. Donc, il a fallu travailler. La cellule de recrutement qu'on a mis en place depuis quelques mois a beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'on a été chercher des joueurs pas forcément connus, à l'image du petit Diousset, là, le jeune Sénégalais, qui était à Empoli depuis quelques années, qui avait deux ans dans la ligue italienne. Et donc voilà, et là je pense qu'on a fait une bonne, je pense, puis j'espère, parce que vu son premier match, on a fait une bonne pioche. Et puis on était chercher des joueurs.
Ouais, alors, voilà, sans te poser des questions indiscrètes ou embarrassantes en ce qui concerne les plusieurs formules au niveau de l'organisation, ce qui a été reproché à Saint-Étienne, mais après on peut pas dire non plus que quelqu'un de prudent ce soit quelqu'un de stupide, hein. La prudence, c'est pas pour moi la peur, c'est tout simplement par moment l'intelligence. Mais c'est vrai que pour un club comme Saint-Étienne, on attend automatiquement une équipe qui pétille. Si on regarde un petit peu les exemples sur ces deux, trois dernières saisons, sans remonter avant, il y a un exemple du côté de Monaco qui s'est permis la saison dernière de jouer avec un quatuor offensif. Alors, je vais pas te parler de 4-3-3, de 4-4-2, de 4-2-3-1. Est-ce qu'on s'achemine vers un Saint-Étienne tout en étant équilibré, ça c'est ce que recherchent tous les entraîneurs, mais d'avoir quand même 3 voire 4 joueurs offensifs capables de foutre un petit peu plus la panique aux adversaires que ce qu'on a pu voir dans ce chaudron qui ne demande que ça.
Ouais, je suis d'accord. Non, moi je veux pas faire de comparaison, surtout déjà avec Christophe qui est vraiment maintenant
ça n'a rien à voir. Christophe, il avait sa vision des choses.
Il a fait des très belles années, et c'est vrai que la saison dernière on était très critiqué par rapport au jeu, mais bon, je pense qu'il y avait surtout une fin de cycle, et des joueurs peut-être un peu fatigués. C'est pour ça d'ailleurs que cette année on a complètement renouvelé l'équipe, c'est-à-dire qu'on a rajeuni l'équipe. On voulait avoir des joueurs plus jeunes, plus avec des jambes, de la technicité bien sûr, mais on a rajeuni l'équipe exprès, parce que si tu regardes les 6 joueurs qu'on a pris, c'est des joueurs qui ont entre 19 ans et 25 ans. Ça pour nous c'était hyper important. Bon bah c'était une fin, oui, comme je parlais d'une fin de cycle, quand je parle de pas mal de joueurs qui sont partis, quoi, qui ont fait les boulots de Saint-Étienne ces dernières années. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'était un gros changement. Le retour de Bamba aussi, tu vois, qu'on avait prêté l'année dernière, qui apporte beaucoup là actuellement.
Donc, vous, le directeur sportif, pour rebondir sur ce que dit Roland, vous n'êtes pas allé voir Oscar Garcia en disant bon, joue un peu l'offensive, là, on a besoin d'avoir mettre un peu le feu. Non,
on n'avait pas besoin de lui dire, parce que de toute façon c'était sa philosophie. Donc quand on l'a rencontré, c'était sa philosophie. Bon, il est passé par Barcelone, il est passé ensuite il est passé par.
Il a été coéquipier de Christophe Dugarry à Barcelone d'ailleurs, Oscar Garcia. Bon, au passage.
Il paraît qu'il s'en rappelle pas.
Garcia ou Dugarry.
Il y a la philosophie de jeu qui fait.
On peut l'attaquiner un peu avant qu'il attaque du gars.
Comment?
On chambrait un peu du gars.
Non, je disais que Garcia se rappelle plus du gars.
Team du gars qui reprend le 21
Ils ont joué ensemble, exact.
Alors, je récapitule juste quand même ce qui s'est passé. Donc, Diony arrive, Yanko, Diouce Ouleli. Et donc, aujourd'hui, vous avez présenté Hernani, qui vient du, Zénith.
On s'est mis à l'heure brésilienne aujourd'hui.
Gabriel Silva également.
On suit la mode, qu'est-ce que je te disais.
Et un joueur, un jeune grec, Katranis, qui est un jeune latéral. Ouais. Donc, effectivement, Saint-Etienne.
À Marseille, c'est l'apéro. Hein.
Hernani en prêt, qui arrive du Zénith, là, 23 ans. Mm-hmm. Un prêt. Après, pour tous les autres joueurs, on a investi, c'est des achats de joueurs. Gabriel Silva, qui est en Italie depuis plusieurs années, qui a bougé pas mal. Parce que Udinese, c'est quand même un club qui. Un peu un club comme Porto, qui prête ses joueurs. Ouais. Mais voilà, qui était en équipe de Brésil Espoir, qui a joué d'ailleurs avec Neymar, enfin bon, qui est un latéral gauche. Et puis, on a investi sur un jeune grec, Alexandros Katranis, que la cellule surveillait depuis pas mal de temps. 19 ans, voilà.
Est-ce que le mercato est terminé à Saint-Etienne ou il peut encore se passer des choses?
Tant qu'on n'est pas fin août, c'est jamais terminé. Hein, ouais. Après, il est certain que Oscar veut un effectif réduit autour de 22 joueurs pour justement laisser aussi un peu de place à nos joueurs du centre de formation, parce qu'on a quelques joueurs qui frappent à la porte. Donc, faut leur laisser un peu de place. Et donc, pour qu'il y ait un ou deux joueurs qui arrivent, il est certain qu'il faudrait qu'ils aient des départs.
Voilà, donc là maintenant, il faut que vous dégraissiez un petit peu, quoi, comme on dit.
Oui, encore. Ouais. Ouais.
Bon, voilà un peu les objectifs à court terme. Alors, la saison a bien démarré avec cette victoire face à Nice. Quel est l'objectif du club cette année en termes de résultats?
On sort de quatre années d'Europa League. Là, cette saison, on ne va pas jouer l'Europa League. Ce qui est bon, maintenant, on s'en contente.
Ce qui n'est pas non plus interdit de l'atteindre quand même.
Mais quand on voit les concurrents, ça fait peur. Ça fait peur maintenant, c'est sûr, de plus en plus. Mais bon, justement, on va essayer, si on a pris des joueurs, on va essayer de s'améliorer à tous les niveaux, hein, tous les niveaux du club, et que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la formation aussi, on essaie de s'améliorer. Il faut si on veut être, si on veut concurrencer les, enfin. Je parle pas de certains clubs, bien sûr, je parle pas de Paris, je parle pas de Monaco, mais si on veut concurrencer certains autres clubs, il faut s'améliorer à tous les niveaux. C'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, moi je compte beaucoup aussi sur, bien sûr, sur notre choix d'entraîneur, sur notre entraîneur et son équipe là pour nous propulser dans les meilleures places et puis de toute façon, on sait qu'il y aura plusieurs championnats dans le championnat de France. Mmh. On connaît nos concurrents. Cette année, c'est une année de transition. Enfin, transition. J'aime pas ce terme, mais ça va permettre justement le fait de pas faire la Coupe d'Europe, de bien travailler. Quand tu n'as pas la Coupe d'Europe, tu peux travailler toute la semaine. Et ça, c'est ce qu'on, Oscar Garcia compte beaucoup sur ça.
Alors, si vous finissez cinquième, vous êtes content?
Pour mettre en place son jeu, quoi, en fait.
Non, mais il y a.
Cinquième, vous êtes satisfait?
Bah, évidemment.
Évidemment, mais bon, voilà.
Non, puis il y a un truc aussi qu'on ne peut pas fixer comme objectif, mais on peut quand même y penser, c'est de se dire d'aller au bout d'une coupe nationale, et pourquoi pas gagner, et être européen par le biais d'une coupe.
Bien sûr, c'est un objectif, c'est notre objectif. On a trois objectifs, bien sûr, le championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Maintenant, l'objectif le plus important, ça reste le championnat, comme tous les autres clubs.
Tu sais ma vision des choses, j'ai quand même la prétention d'avoir un peu d'expérience, pour ne pas dire beaucoup, et un peu de compétences. La construction d'un groupe.
Il y a beaucoup d'expérience et beaucoup de compétences.
Bon, c'est gentil, mais la construction d'un groupe, je pense savoir quand même et connaître les difficultés. Et quand on fait un petit peu le bilan de Saint-Etienne, on ne s'imagine pas le nombre de points perdus par Saint-Etienne, comme toutes les équipes jouant l'Europa League. Parce que pour jouer
l'Europa League.
Oui.
Parce que l'Europa League se joue jeudi et dimanche.
Jouer l'Europa League, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas contre, à condition qu'on ait l'effectif pour. Et quand on n'a pas l'effectif pour...
Roland, ça, ce qui serait pas mal, ça serait les conditions, ça serait de jouer le lundi aussi, peut-être.
Voilà. Là, déjà, je verrais pas les choses de la même façon.
La Ligue y réfléchit, hein. C'est un truc qui pourrait arriver.
Pour le moment, je ne mets pas en doute que la Ligue puisse réfléchir, mais quand la Ligue réfléchit sur pas mal de choses, je suis inquiet. Tu vois, de savoir qu'est-ce qui va sortir. Pourtant, il y a des gens compétents, mais il y a des gens compétents, ce qui n'empêche pas qu'on est en désaccord.
Oui, je rappelle que Frédéric Thierry, à l'époque, avait un jour promis que coach Courbis ferait partie de la commission des calendriers, mais ils t'ont jamais invité, hein. Donc, puis maintenant Thierry est plus là. Donc,
Ah, ben attends, quand je vois.
Ils l'ont jamais invité parce qu'ils l'écoutaient sur RMC, donc
ils... Ah, c'est pour ça. Ouais, mais alors ils n'appliquaient pas du tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire la finale de la Coupe de la Ligue au milieu de la saison.
Là, je te donne déjà un truc qu'on aura l'occasion d'en parler, Dominique. C'est la nouveauté. Pour les matchs de barrage, c'est-à-dire que la saison prochaine, à la fin de la saison, tu vas avoir l'équipe de Ligue 2, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, ils vont s'entretuer, ils vont faire 2 matchs, 3 matchs, et pendant ce temps, devant la télé, tu as l'équipe de Ligue 1 qui se fait masser les gens,
et qui
tranquillement va rencontrer une équipe qui aura fait... Or là, j'ouvre une parenthèse et je la referme. Je veux bien, moi.
Même si cette année, c'est 3 qui s'est qualifié quand même. Qui est monté quand même contre l'Orient, mais bon.
Ouais. Oui, d'accord. Mais 3 n'a pas fait 3 matchs avant de jouer contre l'Orient. Alors, si par exemple, on veut faire des barrages, un attrait, un truc, ok. Mais à ce moment-là, eh bien, en première division, faisons jouer le 18e, le 17e, le 16e et le 14e. Pendant qu'en deuxième division, il y a le 3e, le 4e, le 5e et le 6e qui s'entretuent. Donc, comme ça, on met du suspense.
Là,
on referme la parenthèse. On parle de Saint-Étienne.
Je sais que Didier Quillot nous écoute régulièrement. Peut-être que lui va t'inviter pour de bon. Dominique Rocheteau, merci beaucoup.
Ok, merci. Ben, j'espère qu'on va faire une belle saison.
Directeur Rocheteau, merci beaucoup. Et puis, on va suivre maintenant Saint-Étienne avec un nouveau titre pour toi. Mais pour le moment, ce n'est pas un titre de champion, c'est un titre de directeur.
Et
ensuite, on va regarder ce Saint-Étienne sans l'Europa League le jeudi. Qu'est-ce que ça peut donner le week-end?
Merci Dominique Rocheteau. Et nous,
je vous remercie.
Bonne journée.
Salut Dominique.
Dans quelques instants, on revient Roland et on va débattre ensemble au 32-16 avec vous, supporters des Verts, avec cette question. Mais jusqu'où peut aller Saint-Etienne cette année? Maintenant que vous avez toutes les infos via Dominique Rocheteau, on vous attend pour débattre tout de suite dans l'intégrale.
RMC, Intégrale Foot, Roland Courbis, Gilbert Bribois.
Et oui, l'intégral foot est là jusqu'à 18h et ensuite c'est l'athlé qui va prendre la suite, bien sûr vous le savez, avec la soirée à Londres et les Français une nouvelle fois en compétition avec assez peu de chances de médaille ce soir. Enfin, il y a quelques rendez-vous sympas pour nos Français, Marie-Zévange Gépé, Nicolas Jamin, François Guévé de Châteaufort, ils sont tous présents, Saber Desfarges également pour l'athlé, donc dans une grosse demi-heure maintenant. Alors, Dominique Rocheteau nous a fait un tableau complet de la situation à Saint-Etienne, Roland. Il disait tout à l'heure, 5e, on est content. Enfin, c'est vrai que la concurrence cette année est quand même de plus en plus forte. Une saison réussie de Saint-Etienne, pour toi, ce serait quoi?
5-6e,
ça ne veut pas forcément dire Coupe d'Europe.
Non, mais ça serait quand même une saison réussie. Pour avoir une place de 5-6e, il te faut quand même un certain nombre de points. Pour les récupérer, ben ça voudra dire que tu as donné satisfaction à tes supporters. Et après, donc je rajoute, aller au bout d'une des deux coupes nationales. Bon, évidemment, si possible, la Coupe de France, qui est pour moi nettement plus importante que la Coupe de la Ligue. Mais ça fait rien. Si déjà tu vas en finale de la Coupe de la Ligue, ben tu seras content.
On a Thierry au 32-16 qui est supporter des Verts. Salut Thierry.
Oui, bonjour Gilbert, bonjour coach.
Salut Thierry.
Bonjour Thierry. Alors déjà, Dominique Rocheteau, nouveau directeur sportif, ça te plaît toi?
Ah bah oui, moi ça me plaît de voir Dominique Rocheteau, nouveau directeur sportif. Bon, ça fait quand même déjà quelques années qu'il était au club, hein.
Ouais.
Avec Christophe Galtier, donc c'était pas tout à fait les mêmes fonctions. Mais bon, il était déjà au club, Il travaille avec Christophe Galtier, donc...
T'as remarqué qu'il n'a pas trop insisté, quand on lui a posé la question, sur la qualité du jeu, parce que c'est souvent ce qui était reproché à Galtier, notamment par les supporters, qui disaient quand même, on s'emmerde, il n'y a pas de spectacle. Alors ok, les résultats étaient plutôt là avec Galtier, puisqu'il y a eu les années de Coupe d'Europe, il a fait progresser au niveau résultat le club, ça c'est indéniable. Mais enfin bon, c'était pas le spectacle à chaque fois à Saint-Etienne. Est-ce que pour toi c'est important qu'Oscar Garcia installe un nouveau style avec, on va dire, un jeu un peu plus flamboyant? Ou finalement, toi, tu te concentres sur le résultat?
Alors, c'est vrai que, bon, on va pas non plus. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Il y a deux choses qu'il faut voir. La première, c'est vrai qu'une équipe qui joue bien, c'est toujours plaisant à voir. La première mi-temps que la SS a fait contre Nice, c'est vrai que c'était une excellente première mi-temps avec un pressing qui était assez haut, donc avec un Djoussé qui a fait un très bon match. Maintenant aussi, une chose, on préfère quoi? Une équipe qui joue bien et qui, au final, va perdre 1-0, au final, la seule chose qu'on retient, c'est les titres dans le football. On va pas retenir un tel, il a bien joué. On va retenir, au final, c'est quoi qui compte, c'est les... On a été européens 4 ou 5 ans de suite, on a fait la Ligue
Europa. T'as quand même remarqué que, de façon générale, les équipes qui jouent bien ont plutôt tendance à gagner les titres. C'est, ça
oui,
va souvent
d'accord.
avec.
Ouais, mais ça va bien, mais au final, on jouait pas très bien. Le résultat, il était quand même là, que Christophe Galtier... Il a fait quand même progresser les titres. Il a fait progresser l'équipe, pardon. Le résultat, on a eu une Coupe de la Ligue en 2013 et on a fait 4 ans de suite la Ligue Europa. Certes, le jeu, c'était pas flamboyant. On pouvait s'ennuyer un peu à Geoffroy Guichard, surtout la dernière année. Je pense que c'est surtout la dernière année où c'était un peu, peut-être, un peu plus difficile. Là, cette année, pour une fois, on a gagné le premier match. C'était pas arrivé quand même depuis quelques temps, hein. Donc, ma foi, tant mieux. On a gagné Nice. Bon, c'était la fin d'une série, tant mieux, de toute façon, toutes les séries ont disparu à un moment donné. Et surtout, on a eu quand même un jeu que, surtout en première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps était quand même un peu plus difficile. Je pense que Roland pourra confirmer que la première mi-temps, c'était un Saint-Etienne différent, avec un pressing quand même qui était haut, qui était une équipe intéressante. Et moi, je trouve avec un Doucet qui était une nouvelle recrue, qui je trouve qui a fait un très bon match.
Ouais, le joueur sénégalais, bon le jeune sénégalais dont parlait Dominique Rocheteau tout à l'heure.
Moi, je trouve qu'il a un bon volume de jeu. Hein. Je sais pas ce qu'en pense Roland, mais il va voir après ce que ça donne avec le temps.
Non, mais moi, je suis ça évidemment avec beaucoup de curiosité et cet effectif de Saint-Etienne que je trouve intéressant n'est pas encore complètement terminé. Ils auront justement pour la première fois depuis quelques années, la possibilité de bien préparer le match du week-end sans avoir l'Europa League le jeudi. Et ça, ça augmente les chances de pouvoir justement bien jouer avec un peu plus de fraîcheur. Mais tu joues obligatoirement un peu mieux. Et c'est sûr que cette histoire, on l'entend depuis toujours, c'est mieux de gagner un match en étant mauvais que de le perdre en étant bon. Mais bon, heureusement pour le football, qu'il y a une partie que tu ne maîtrises pas, mais perdons pas de temps, et on la maîtrise pas, mais il y a quand même une certaine logique, comme le dit Gilbert, si tu joues bien, et j'insiste sur le verbe « jouer », c'est jouer au football. Si tu joues bien et bien joué, c'est pas se faire 50 passes pour avancer de 5 mètres. Bien joué pour moi, c'est se créer des occasions, c'est perturber l'adversaire et aussi ne pas faire l'erreur de généraliser de l'équipe de Saint-Etienne par rapport à la saison à venir. Il y a l'équipe de Saint-Etienne par rapport à la saison à venir qui jouera contre Amiens ou contre Troyes, c'est-à-dire des équipes moyennes et des équipes surprises. Et après, il faudra voir le Saint-Etienne contre Monaco, contre Paris Saint-Germain, contre Marseille, donc contre Lyon, le derby. C'est ça une saison stéphanoise. C'est pas de se dire, il faut bien jouer. Il y a certains matchs, eh ben tu te contenteras d'avoir déjoué l'adversaire, d'avoir fait un joli match nul, parce qu'il faut savoir aussi ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Et souvent, quand tu fais ce que tu sais faire et que tu fais pas ce que tu sais pas faire, ben ça fait partie aussi de l'intelligence d'un coach, d'un staff et de joueurs qui se servent au mieux de leurs qualités et de leurs défauts.
Merci à toi Thierry.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour reparler des Verts. On va continuer le débat avec Stéphane sur Saint-Etienne dans quelques instants, mais à 17h30 et comme toutes les heures cet été pendant nos programmes sport, eh bien un petit rappel de l'actu du jour avec Mathieu Charret. Rebonsoir.
Rebonsoir Gilbert, rebonsoir coach, rebonsoir à tous. Jour 7 au championnat du monde d'athlétisme de Londres. Trois Français sont au programme. Le premier est Jean-Marc Ponviane en finale du triple saut. À 23 ans, c'est une grande première pour lui.
Exact, première finale mondiale. Je pense que, comme je l'ai dit et répété, il faut prendre les étapes les unes après les autres. Donc d'abord rentrer dans les 8 et ensuite j'aurai, j'espère, 3 sauts supplémentaires et après tout est possible.
Jean-Marc Ponviane au micro de Saber Desfarges. Début de la finale du triple saut ce soir à 21h20. À 21h25, Mayedine Mekissi court les séries du 1500 mètres et à 22h23, Estelle Raffaï sera en demi-finale du 200 mètres féminin. Et puis c'est la finale du 200 mètres masculin qui clôturera le programme de la soirée à 22h50 avec un duel attendu entre d'un côté le Sud-Africain Wade van Niekerk qui visera le doublé après son titre sur 400 mètres et de l'autre côté le Botswanais Isaac Makwala. Forfait en début de semaine à cause d'une épidémie de gastro, il a dû courir 2 200 mètres hier pour se qualifier en finale. Meilleur performeur mondial de l'année, il reste le favori pour la médaille d'or. Le début de cette soirée d'athlétisme, c'est à 19h30 et ce sera à suivre comme d'habitude dans l'intégral sport de Nicolas Jamin en direct du Stade Olympique de Londres. En tennis, place au 8e de finale du Masters 1000 de Montréal ce soir avec deux Français. Gaël Monfils est attendu sur le court dans une petite heure face à l'Espagnol Bautista Agut. Adrian Manarino affronte lui dans la nuit le jeune coréen Chung. Également au programme Roger Federer et Rafael Nadal, l'Espagnol qui redeviendra numéro 1 mondial s'il va au moins jusqu'en demi-finale cette semaine. Ce serait une première depuis juin 2014. L'équipe de France masculine de basket joue son 3e match de préparation à l'Euro 2017 ce soir. Les Bleus de Vincent Collet affrontent la Lituanie à Orléans. Une équipe qui, selon le coach, est plus dangereuse encore que la Croatie qui a battu la France mardi. On l'écoute.
Elle est peut-être encore plus impressionnante à l'intérieur. Voilà, Valančiūnas est un problème majeur. Nous, on n'est pas très grand. Et la Lituanie, avec Valančiūnas qui fait 2,17 m, est un problème majeur. Par contre, je pense qu'on a capacité à leur poser des problèmes sur nos arrières. Voilà, ils ont pas, on a plus de vitesse qu'eux sur les arrières. Donc il va falloir qu'on arrive à compenser et que défensivement, on soit plus présent. Ça c'est indispensable.
Vincent Collet au micro de Georges Quirino. Coup d'envoi du match à 20h30. Ce sera à suivre en direct sur SFR Sport 2 et sur RMC. Départ canon pour les Françaises au mondial de rugby en Irlande. Les Bleus ont pulvérisé hier les Japonaises 72-14 avec 12 essais inscrits. Deuxième match des Françaises ce dimanche à 20h45. Ce sera face à l'Australie qui a, elle, perdu son premier match hier. C'était face au pays hôte, l'Irlande, sur le score de 17-19.
Merci Mathieu, on se retrouve dans une heure bien sûr pour un nouveau point sur l'actualité sportive. Et nous on repart avec Saint-Etienne et pas mal de messages sur le hashtag RMC Live. Alors Marca, le journal Marca sur son site internet annonce ce soir que Mbappé est un nouveau joueur du PSG. Évidemment nous n'avons pas ces informations, on pose la question là sur le hashtag RMC Live, donc nous à RMC n'ayant pas ces informations là, évidemment on ne confirme pas l'information qui vient d'Espagne. Pourquoi les Espagnols disent cela? Là, on n'a pas de source qui confirme tout ça. Donc, voilà. J'ai par exemple Tav qui nous pose la question sur le hashtag RMC Live. Pas de news de notre côté en ce qui concerne Mbappé pour l'instant.
Si ça sort du Marca, c'est tout simplement parce que ils ont le savoir du Real que le Real n'a pas pu avoir un Mbappé, donc c'est le Real qui a dit il a choisi Paris. Ça ne peut être que ça.
Peut-être, mais pour l'instant pas de confirmation de notre part. Alors sur l'hashtag RMC Live, Yemou qui dit ça fait peut-être rétro en ce moment, mais ça fait du bien d'entendre un mec comme Rocheteau et son attachement à Saint-Étienne. Il y a quand même un truc, on va poser la question à Stéphane qui est avec nous au 32-16. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Roland, bonjour.
Salut Stéphane.
Cette stratégie de recruter des jeunes joueurs peu connus, est-ce que ça convient à un club comme Saint-Etienne? Est-ce que Stéphane, t'aimerais pas avoir un peu des noms des fois qui arrivent et qui peuvent te faire un peu rêver et te donner envie d'aller au stade?
Mais l'avantage qu'on a déjà à Saint-Etienne, c'est qu'on rêve tout le temps. Depuis 76.
Pourquoi ah, bon, pas entendu. Ah bah, si toi tu es dans le rêve permanent depuis 76, alors évidemment là, je peux plus rien dire.
Non, après, ce qui est sûr, c'est que Saint-Etienne n'a pas les moyens de se payer un Mbappé comme le fait Monaco, enfin comme peuvent le faire d'autres clubs en Europe à l'heure actuelle. On sait très bien qu'on n'a pas un budget qui nous permet d'acheter de grands joueurs. Vaut mieux faire une politique comme ils le font à l'heure actuelle de faire des achats de jeunes joueurs qui sont peut-être l'avenir. Et également de promouvoir les jeunes du club qui sont formés au centre de formation. Et voilà, comme l'a fait Monsieur Aulas, pourtant en tant que Stéphanois, durant la fabrication de son stade, n'avait pas les moyens d'acheter de grands joueurs et s'est servi du centre de formation pour garder une équipe compétitive à son niveau.
Oui, mais moi je pense que bon, je te suis attentivement. Et évidemment, on est obligé d'être d'accord, c'est cohérent. Mais on peut aussi faire les deux. On peut arriver à former quelques joueurs, acheter quelques jeunes et deux, allez, vieux briscards, vieux entre guillemets, avec la carrière derrière eux, mais capables encore de faire 2-3 ans avec, c'est vrai, un certain nom, une certaine expérience, ça c'est possible.
On a essayé de le faire au préalable. On a eu Erding comme exemple récemment, qui était un joueur de qualité, qui avait déjà passé au niveau des grands clubs européens. Et quand il a été chez nous, il nous a pas fait une saison fantastique. Alors ça ne dépend pas, peut-être pas forcément entièrement de lui. Peut-être que les joueurs qui étaient autour de lui ne donnaient pas assez de ballons ou de bons ballons, ou peut-être que le système de jeu ne lui convenait pas. Mais après, c'est pareil. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce principe-là à essayer d'avoir des bons joueurs qui ont de l'expérience et qui peuvent arriver en fin de carrière et qui sont à des prix plus à la portée de petits clubs, que, enfin petits clubs dans le sens budgétaire, comme les Saint-Etienne.
Donc toi, tu adhères à la stratégie qui te convient parfaitement.
Oui, j'adhère dans le sens où on n'a pas tellement d'autres solutions. C'est, je veux dire, demain, si quelqu'un d'un autre pays vient investir autant d'argent que ça a été fait dans certains clubs comme Monaco ou Paris et vient nous permettre d'acheter des grands joueurs, je ne dirai jamais non. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec le budget que nous avons et avec la situation de Saint-Etienne, on a difficilement d'autres possibilités que celles qu'on est en train d'effectuer.
D'accord, mais il y a aussi un truc qui ne s'est plus passé depuis 3, 4, voire 5 ans, c'est la possibilité d'avoir beaucoup plus de fraîcheur le week-end pour être une équipe stéphanoise un peu plus en jambes que ce qu'on a pu voir dans certaines périodes. Donc le fait de ne pas jouer l'Europa League, ben, ça fait faire un petit break. Mais c'est peut-être aussi pour le spectacle et pour les résultats une bonne chose. Hein. Ça, on va le suivre, mais moi, j'en suis presque persuadé.
Stéphane, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à vous.
Stéphane.
Petit mot, si je peux me permettre.
Bien sûr.
Un grand merci par rapport, comme je suis dans le sud-ouest, au Pays Basque. Merci à Christian Serramania et à tous les Verts qui ont fait une belle œuvre caritative, qui ont participé à une belle œuvre caritative il n'y a pas très longtemps avec nous, et qui sont venus manger au restaurant où je travaille, parce que je suis serveur, et qui ont participé avec Monsieur Yashvili du Biarritz Olympique à une superbe œuvre caritative et qui sont venus très nombreux dans notre restaurant pour participer à ça. Et moi, en tant que supporter des Verts, j'ai juste passé une soirée merveilleuse de voir toutes ces gloires de 76.
Salut Stéphane.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Deux, trois petites infos qui viennent de nous arriver, Roland.
Oui.
On apprend à l'instant qu'à Bastia, le groupe de repreneurs jette finalement l'éponge. Vous savez qu'il y a un groupe de 10 repreneurs corses qui avait passé lundi un accord avec le Sporting en vue de son sauvetage. Eh ben, ils renoncent finalement au projet. Donc, il y a eu relégation sportive en Ligue 2, rétrogradation administrative en National 1 par la DNCG. Désormais, le Sporting va évoluer en National 3, et même là, ce groupe de repreneurs jette l'éponge. Ils disent: nous étions prêts à apporter nos compétences, nos moyens, 100 000 euros chacun pour enfouir, lancer l'association, le secteur amateur avec son palmarès et tout. Et malheureusement, je cite, comme la section professionnelle, la section amateur, après un rapide audit, s'est avérée être dans une situation catastrophique, loin des annonces rassurantes, avec près d'un million d'euros de dettes et de pertes. Donc en gros, ils ont découvert des cadavres dans les placards, même dans la section amateur du Sporting, les repreneurs. Donc
ouais,
là,
bon,
ils laissent tomber.
Quand il y a un club qui dépose le bilan, c'est justement parce que le montant de la dette est supérieur à celle qu'on pensait. Il est jamais inférieur. Hein.
Donc bah là, le Sporting, bon, espérons que le club continue. Il va continuer à National 3, mais vraiment dans la difficulté totale. Autre info, on apprend que le Brésil jouera avec Neymar contre l'Équateur et la Colombie lors de la prochaine trêve internationale, donc de fin août, début septembre. Match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Neymar est évidemment convoqué par le sélectionneur brésilien pour ces matchs internationaux. Et puis, il y a quelques minutes également, Klopp déclare que Coutinho n'est pas à vendre. Voilà, on veut avoir la meilleure équipe possible, on veut garder les meilleurs. On n'a pas besoin de vendre, dit Klopp. Voilà, suite
mais
à notre
si,
débat de l'émission
aussi,
tout à l'heure.
Est-ce que c'est une précision commerciale pour mieux le vendre? Eh ben ça, on verra dans les jours qui viennent.
Moi, je retiendrai toujours cette phrase de Jean-Pierre Rivard, le président de Nice. En période de mercato, parfois, on est obligé de mentir.
Oui. Bon. Mais il y en a pour certains que c'est pas seulement pendant le mercato.
C'est vrai. Mais là, on est pendant le mercato, donc bon. Allez, dans quelques instants, l'OM. Là aussi, il y a du mercato. Il y avait une conférence de presse aujourd'hui de Rudy Garcia. On va aller sur place dans quelques secondes rejoindre Florent Germain. Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent? À ma vie, est là. Dans quel état de forme est-il? Il revient de blessure. Vous saurez tout sur l'Olympique de Marseille dans quelques instants dans l'Intégral Foot. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Super Grégoire.
L'Intégral Foot jusqu'à 18h et ensuite on partira à Londres pour une grande soirée athlétisme. On se régale avec l'athlète depuis le début de la semaine. Roland, sur RMC, on ne rate rien. Tous les podiums, toutes les médailles, bien sûr. Et ça continue ce soir donc à partir de 18h dans un gros quart d'heure et jusqu'à 23h. Alors l'OM, on va en parler avec dans quelques secondes Florent Germain qui va nous rejoindre. Il est en train de suivre la conférence de presse qui vient de se terminer. Hein. Donc le temps qu'il arrive, Florent sera avec nous. Conférence de presse avec Rudy Garcia, avec Héro, le patron, avec Clinton Engie également. Un peu plus tôt, Jordan Amavi a été présenté à tout le monde. C'est désormais officiel, il est à Marseille. Le latéral. Une info que vient de donner Garcia il y a quelques minutes à peine. Il explique que Cabella est sur le départ, dit-il. Alors je prends sa citation. Rémy est un excellent joueur, mais je pense qu'il est dans un profil d'au moins trois joueurs de l'effectif aussi excellent. Donc en gros, il compte pas sur lui. C'est à partir du moment où tu dis ça. Voilà. Il cite notamment Ocampos, qui donc dans son esprit semble dans la hiérarchie devant Cabella. On a discuté, je pense qu'il est en train de regarder pour bouger, ce serait mieux comme ça, on verra, dit Garcia.
Dans l'intersaison, ça a d'ailleurs été un petit peu surprenant, c'est que il n'y a pas seulement Ocampos, il y a Engie qui est passé devant devant Cabella, et cette situation-là, la situation de Cabella qui était juste derrière Thauvin et derrière Payet, oh, elle était facilement jouable pour lui. Là, maintenant, il doit se voir un petit peu trop éloigné de la possibilité d'être titulaire et donc de rechercher un club qui lui donnera cette possibilité-là. Je trouve dommage parce que je l'aurais bien vu, notamment en tant qu'ancien Montpellierain, Sanson Cabella, je pensais que ça pouvait fonctionner.
Florent Germain nous rejoint. Florent, bonjour.
Salut messieurs.
Salut Flo.
Oui, j'étais juste en train de donner donc cette déclat de Rudy Garcia il y a quelques instants qui dit que Cabella donc est sur le départ. Bon, c'est pas vraiment une surprise au fond parce qu'il jouait plus trop ces derniers temps là.
Écoute, on avait expliqué sur RMC que après le match, à la mi-temps du match contre Ostende, lors du match retour, c'est vrai que je l'avais croisé dans les coursives du stade un peu par hasard et il était totalement dépité. Je pense que ce soir-là, il a compris, en étant 19e homme, que plusieurs joueurs, notamment Ocampos, voire Engie, on en reparlera, lui était passé devant, même si c'est pas tout à fait les mêmes profils. Ocampos, le retour d'Ocampos. Le fait que Rudy Garcia est quelque part un peu flashé sur ce joueur depuis quelques temps, il l'avait suivi aussi en Italie, contre l'avis de certains ou de tous presque, parce que Lucas Ocampos n'a pas été retenu par les clubs dans lesquels il est passé, mais malgré tout, lui, il aime sa capacité à se projeter vers l'avant, il aime sa technique, il aime aussi son volume de jeu. C'est vrai qu'il a un peu pris physiquement Ocampos, et donc Garcia aime ce joueur-là.
Roland, c'est pas non plus une chèvre Ocampos. Je trouve que souvent les supporters sont un peu durs avec lui, je trouve. Et c'est vrai qu'il
pas mal du tout pour jouer.
J'ai pas dit que c'était une chèvre, mais par contre, il n'a pas été retenu par les clubs.
Non, mais disons qu'il,
notamment en Italie, dans lesquels il est passé. Donc
il se fait souvent allumer à droite à gauche. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. C'est, je sais pas. Je trouve qu'il est.
Bon, c'est aussi parce qu'il a un style un peu un peu atypique où parfois il tente, il a parfois un peu de déchets dans son jeu à gommer, mais l'expérience et certains passages, notamment en Italie, font dire, il y a beaucoup de vent en Marseille, hein, font dire à Rudy Garcia qu'il a progressé et qu'il va pouvoir compter sur lui.
Et là, les deux sont passés devant Cabella dans la vision de Rudy. Et entre Engie et Ocampos, lequel est le plus proche d'être titulaire?
Pour moi, c'est Engie maintenant.
D'accord.
Après, ça va se... C'est pas tout à fait le même profil quand même. Engie a une capacité à prendre plus la profondeur peut-être et la vitesse. Et surtout, il a une complémentarité avec Valère Germain qui plaît beaucoup. Bon, par exemple, si on prend la photo là de cette semaine, je suis presque persuadé que Engie va être titulaire alors que Payet est blessé. Donc, on va avoir du Thauvin, on va avoir du Engie et du Valère Germain. Parce qu'il y a une vraie complémentarité. Engie a mis 4 buts quand même pendant la période de match amicaux. Et il a également mis ce doublé, même s'il y en a un des deux qui est un petit peu chanceux. Tiens, on peut écouter, on fait signe en régie, Gilbert, justement, okay. Garcia, à propos de Clinton Engie, si t'es OK. Vous allez voir qu'il ne tarit pas d'éloges concernant son attaquant camerounais, et c'est aussi pour cela qu'il est passé devant Rémi Cabella.
Bah, il est complémentaire avec Valère, il est complémentaire avec Lucas, avec Dimitri, avec Flo, avec Rémi, avec tout le monde, parce qu'en fait c'est un des seuls profils d'attaquant très rapide qu'on ait et de profondeur qu'on ait dans l'effectif. Valère est aussi un attaquant de profondeur parce qu'il se déplace très très bien, il part au bon moment, il sent très très bien le jeu, mais la vitesse de Clinton, il n'y a pratiquement que lui qui peut nous l'offrir, c'est pour ça qu'il est précieux. Après, il est polyvalent, il le dit lui-même, il se sent mieux sur le côté, mais il sait aussi jouer dans l'axe, on l'a vu en préparation, il avait mis deux buts en jouant avant-centre.
Bon, ben voilà, c'est l'homme à la mode, le mode du moment à Marseille.
C'est
bon.
C'est très bien
aussi,
pour tout le monde.
J'insiste là-dessus parce qu'il a eu par le passé quelques pépins physiques, quelques tensions liées à des changements de club ou tout simplement le fait qu'il était en voie d'être transféré. Donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une intersaison quelque part sereine. Rudy Garcia, en fin de saison dernière, l'a rassuré assez tôt en lui disant écoute, l'option d'achat, on la lève. De toute façon, elle était quasiment automatique entre 7 et 8 millions d'euros. Et voilà, j'ai besoin de ton profil parce que si on cherche deux attaquants, il savait déjà à l'époque que Valère Germain signé, il cherchait un autre profil d'attaquant complémentaire, il n'avait pas ce profil-là de vitesse, donc assez tôt il a été rassuré, il a fait une bonne prépa d'intersaison et l'OM en récolte les fruits maintenant.
Alors parlons d'Amavi qui a donc été présenté aujourd'hui même. Il y a quand même un truc à éclaircir, Roland, c'est l'état physique du joueur, parce qu'il y a eu une blessure grave, il était alors en espoir à Amavi, c'était en novembre 2015. Il a notamment été recalé il y a quelques semaines lors d'une visite médicale en Espagne. Là, est-ce qu'on a été totalement rassurant à Marseille, Florent?
Bah écoute, oui, en tout cas, j'ai pu avoir assez rapidement la confirmation que le staff médical avait donné son feu vert. Donc la visite médicale s'est bien passée ce matin, elle a été même assez rapide. On avait pris auparavant, en amont, des compléments d'information via quelques spécialistes. On a à peu près persuadé du côté d'Andoni Zubizarreta que du côté du FC Séville, le fait d'avoir finalement retoqué le joueur par rapport à la visite médicale était aussi pour certains une manière de mettre fin à un dossier qui ne faisait pas l'unanimité au FC Séville. Parce que certains dirigeants n'étaient pas convaincus par la capacité de Jordan Amavi. Donc est-ce qu'on a inventé un faux prétexte pour mettre fin au dossier et puis finalement faire signer Corchia dans la foulée? Bon, c'est une possibilité, moi j'ai pas la vérification. J'ai pas l'info, mais en tout cas c'est ouais. Ce qui se murmure. En tout cas voilà, on a pris le dossier très au sérieux du côté du staff médical et des dirigeants de l'OM, et on est persuadé, ça a été confirmé tout à l'heure, qu'il est en totale capacité physique de tenir un rôle, et qu'il a lui-même dit je suis à 100% et prêt à en découdre s'il faut dès samedi à Nantes.
On a les chiffres un petit peu de la transaction?
Écoute, non, on n'est pas bien bavard du côté des dirigeants de l'OM, mais de ce qu'on peut savoir, on est sur une option d'achat, enfin donc un prêt avec option d'achat, là aussi quasiment automatique, qui est plus lié à un nombre de matchs joués, même si j'ai pas les détails, si on dit quasi automatique, c'est parce que le nombre de matchs à jouer est assez faible, donc c'est vraiment on se projette sur un contrat, il y aura quasiment aucun souci, et on parle d'une option d'achat qui serait aux alentours de 9 à 10 millions d'euros.
Ouais, ce qui fait que malgré que cette option soit automatique, ça donne quand même la possibilité de sécuriser un petit peu la situation, à savoir est-ce qu'il sera vraiment opérationnel, est-ce qu'il va pas rechuter, est-ce que sa blessure est bien guérie. Donc je trouve le montage plus prudent et plus intéressant.
Avec un autre argument qui a fait la différence, et même si Jordan Amavi a pas trop voulu s'étendre là-dessus, parce que son poste c'est à gauche, il est gaucher, il aime prendre le couloir, il aime centrer, il y a quand même eu la possibilité de jouer sur le côté droit, chose qu'il a faite en espoir. Cette possibilité a été évoquée avec Rudy Garcia, parce que finalement on peut presque affirmé maintenant à la mi-août qu'il n'y aura plus de recrues derrière. C'est-à-dire que Rudy Garcia l'a dit ce matin dans la presse.
Pas de défense en centrale en plus.
Il est content. Il a dit ce matin qu'il était content de Rolando et que maintenant la priorité est plus d'avoir un attaquant. Et que c'est vrai qu'il n'y a pas de doublure à Sakai puisque Rod Fanny est sur le départ. Hein. On lui a demandé de trouver un autre club, tout comme à Henri Bédimo. Mais par contre, Amavi peut jouer à droite et donc ce serait une solution, pourquoi pas, sur le côté, même si il préfère jouer à gauche. Juste un petit mot sur Amavi, il a vraiment eu des propos assez élogieux envers Patrice Evra en disant je joue au même poste que lui. Odile lui dit il joue au même poste que moi. Non, c'est moi qui joue au même poste que lui, c'est un grand monsieur, je suis là pour apprendre à ses côtés. C'est important quand même de pas se froisser tout de suite avec tonton Pat dans le vestiaire. Donc il a eu ces mots là et puis par contre il a moins apprécié le fait qu'un de mes collègues lui ait rappelé un tweet qu'il avait fait quand il jouait à Nice où il avait répondu un petit peu chauffé des supporter un histoire en disant ouais on est obligé d'aller gagner à Marseille. Bon, il a pas du tout aimé qu'on lui fasse ce rappel là alors que lui dit que il avait rien du tout contre l'Olympique de Marseille et qu'il va défendre les couleurs de ce club sans aucun souci, avec grand plaisir.
Cédric est avec nous au 32-16, supporter de l'OM. Cédric, bonjour.
Bonjour messieurs.
Salut Cédric.
Cédric, pour être complet, on en avait déjà parlé un peu hier soir, l'option Giroud est enterrée, hein, donc par Garcia,
oui,
et Héron.
Il veut pas venir. Hein. C'est pas grave, on prend que des mecs qui veulent porter les couleurs. S'il veut pas, bah, qu'il reste en Angleterre. Il finira à Stoke ou à Sunderland. Et voilà, tant pis pour lui.
Bah voilà, voilà l'avis de Cédric sur Giroud.
Il aurait pu être le roi du monde à Marseille. Tant pis, il a préféré la tranquillité, mais tant pis pour lui. Hein. Quoi, tant mieux, de toute façon c'est lui qui voit le mieux pour lui. Hein.
Bon, après, hein, tu sais, Leicester a été champion. Si un jour Giroud est champion avec Stoke, hein, peut-être que tu auras des regrets.
Ah non, ça va. Il aurait voulu venir, j'aurais dit oui, mais là, comme il veut pas, bah.
Bon, et dis-moi, tu retiens quoi de cette conférence de presse là? Amavi, NJ qui est devant Ocampos et Cabella qui va partir, qu'est-ce que tu retiens?
À ma vie, je suis très content parce que là, je suis allé voir le premier match de la saison au stade. Et en fait, ce que j'ai constaté au stade, c'est que au niveau de la défense, au niveau des latéraux, derrière, on a Sakai qui sait défendre mais qui sait pas centrer, et à gauche, on a Evra qui sait centrer mais qui sait pas défendre. Donc, parce qu'il y a des trous, Evra il en fait, hein. Il revient très, il a du mal à revenir, Evra, hein. C'est normal. Hein. Donc, je suis très content qu'à ma vie arrive à l'OM.
Florent, il y a autre chose à rajouter sur la conférence de presse ou on a fait le tour globalement là?
Non, vous avez fait le tour. Moi simplement je dirais que la porte pour Olivier Giroud est fermée à 99,9%. Vous avez dit 100%, moi je veux dire 99,9%. Je ne l'ai pas trouvé
pas un petit bruit. Non,
je préfère laisser le 0,1 si jamais au 30 août Olivier Giroud se réveille et se dit que la concurrence est trop forte du côté de l'Arsenal et qu'effectivement il y a
un petit
club
bruit
dans le sud-est qui est pas
circule.
Mal, qui s'appelle Marseille. Écoute, non, je pense que la piste Baka n'a pas été abandonnée aussi, même si la concurrence est rude depuis le début, même si son agent est assez compliqué parce que c'est vraiment l'agent typique qui aime discuter avec tous les clubs, voir ce qui est le mieux. Enfin, c'est normal, hein, c'est son métier, mais quelque part, ça fait bien longtemps qu'il aurait pu dire oui à l'OM et je pense que le joueur lui a envie. Son entourage préfère laisser un petit peu le temps passer.
Moi, je mise sur un prêt de l'Ivoirien donné.
Ah,
pourquoi pas.
Et
à suivre.
En tout cas, lui, il a envie de venir à pied à Marseille.
Merci Florent.
Merci messieurs.
À très vite. Allez, salut, le récapitulatif des courses du jour à Anguin avec Frédéric Zerbati.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Le quintet aujourd'hui sur l'hippodrome d'Anguin, la victoire totale pour l'entraînement de Fabrice Lercier qui a placé aux deux premières places ses deux représentants, à savoir le 12 Vasco de Viette qu'on n'attendait peut-être pas à la première place, devant le favori de l'épreuve, le 13 Unero Montaval. À distance, le 9 All Feeling se classe 3e devant le 4 Viking Fromentro et le 14 Unbridled Charm. 12, 13, 9, 4 et 14 rapportent un peu plus de 8300 euros. dans l'ordre. Demain, nous allons de nouveau trotter, cette fois en nocturne du côté de l'hippodrome de Cabourg, avec un quintet une nouvelle fois très ouvert, même s'il n'y a que 14 partants. Je vous conseille de faire confiance au numéro 8, Comte du Vivier, qui trouve un très bel engagement au premier échelon et qui s'entend très bien avec son pilote Dominique Locneux. Au second échelon, il y aura le numéro 9, Bolt, qui ne cesse d'enregistrer de bonnes performances, même si cette fois, il sera ferré. Et puis le numéro 12, Blues des Landiers, qui devrait également jouer les premiers rôles. Je pense que c'est un quintet promis à des favoris, donc n'hésitez pas ensuite à prendre quelques bases et à élargir vos jeux. Et puis comme d'habitude, pour des infos complémentaires, direction le site drmcsport.fr.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appelez sur texto.
Coach, l'intégral foot revient demain oui. À 16h. Et tout de suite, on part à Londres pour le championnat du monde d'athlétisme.